J'ai rendez-vous avec vous, une émission de la communauté des radios publiques de langue française.
Une moustache,
une guitare, voici l'enfant terrible de la chanson, Georges Brassens.
J'ai quand même l'impression de bien ressembler à mes chansons. Je crois, oui. Je ne suis pas tout à fait l'ours qu'on annonce à l'affiche, évidemment, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans.
Une émission proposée par Fabienne Chauvière, réalisée par Marie-Annick Rimbaud.
Poète, prends ton luth, Georges Brassens, ramassez votre guitare, c'est à vous.
Il y a 2 mois, François Perrier vous a parlé de la révolution qu'a été en France l'arrivée de Charles Trenet. Je prends position nettement. Je viens d'entendre un jeune compositeur et un jeune chanteur que vous connaissez tous déjà certainement. Et j'avoue que depuis l'arrivée en 1936 à Paris de Charles Trenet, je n'ai pas ressenti une émotion devant un tel talent, une telle débauche de poésie, autant de sincérité, de charme et de qualité. Je voudrais que vous entendiez avec moi, avec autant de joie, j'en suis sûr, je voudrais que vous entendiez Georges Brassens, qui est à mon avis un événement dans la chanson française. Georges Brassens !
Voici comment Bernard Blier a présenté Georges Brassens en 1953 aux auditeurs de La Joie de Vivre. Pourtant, chanter et se produire en public n'a jamais été l'ambition de Brassens. Écrire, composer dans sa petite chambre loin de la foule et à l'abri des rumeurs du métier, et puis confier ses chansons à des interprètes, telle était la vie qu'il avait rêvée. En 1952, Georges Brassens était un inconnu, un artiste désespéré et sans le sou. En 1953, une vedette, difficile à interviewer et dont les chansons, certaines, passaient à la radio. Sont venus ensuite les récitals, les Trois Baudets, Bobineau, l'Olympia, des salles combles, des semaines et des mois à l'affiche. C'est la journaliste Danielle Eman que nous allons suivre dans cette émission consacrée au rapport que Georges Brassens entretenait avec le métier alors que la vague yéyé battait son plein. Danielle Eman fut l'épouse de Jean Berthollat, artiste, musicien, chanteur et ami de Georges. Vous entendrez également Paul Touraine des Frères Jacques, Françoise Hardy, Raymond DeVos, le Québécois Gérard Thibault, Charles Trenet et des documents d'archives de nos radios, absolument délicieux.
J'en appelle à la mort, je l'attends sans frayeur, je ne tiens plus à la vie, je cherche un fossoyeur. Qui aurait une tombe à vendre à n'importe quel prix. J'ai surpris ma maîtresse au bras de son mari. Ma maîtresse, la traîtresse. Je croyais tenir l'amour au bout de mon harpon. Mon petit drapeau flottait au cœur de Madame Dupont. Mais tout est consommé hier soir au coin d'un bois. J'ai surpris ma maîtresse avec son mari poids. Ma maîtresse, la traîtresse. Trouverais-je les noms, trouverais-je les mots pour noter d'infamie cet enfant de chameau qui a choisi son époux pour tromper son amant, qui a conduit l'adultère à son point culminant. Ma maîtresse. Est-ce la traîtresse? Où donc avais-je les yeux? Quoi donc avais-je dedans? Pour pas m'être aperçu depuis un certain temps que quand elle m'embrassait, elle semblait moins goulue et faisait des enfants qui ne me ressemblaient plus. Ma maîtresse, la traîtresse. Et pour bien m'enfoncer la corne dans le cœur par un raffinement satanique moqueur, la perfide à voix haute a dit à mon endroit, le plus cornardé de n'est point celui qu'on croit. Ma maîtresse, la traîtresse. J'ai surpris les Dupont, ce couple de marauds, en train de recommencer leur hymen à zéro. J'ai surpris ma maîtresse, équivoque, ambiguë, en train d'intervertir l'ordre de ses cocus. Ma maîtresse, la traîtresse.
Georges Brassens, 1966.
J'ai un plus grand plaisir à faire mes chansons qu'à passer en public. Je l'ai ce plaisir, mais je vais l'avoir vraisemblablement ce soir. Un plaisir mélangé d'ailleurs, parce que bien sûr je ne sais pas très bien ce que je vais faire encore. Mais au bout d'un mois ou deux, ça m'embarbe un peu de rechanter les mêmes chansons. Je sais bien que le public n'est pas le même et qu'on a toujours l'impression de... Mais je préfère quand même les écrire, oui.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous racontez à votre pianiste entre deux chansons. Vous avez horreur de saluer votre public, il applaudit, vous vous retournez vers votre pianiste, qu'est-ce que vous lui dites?
J'espère qu'il n'est pas à l'écoute parce que vous l'avez traité de pianiste alors qu'il joue de la contrebasse. Hein. Il a horreur de sa grave.
Qu'est-ce que vous lui dites?
En général, je lui dis des choses sans intérêt qui le font rire parce qu'elles sont dites à cet endroit-là. Je lui dis des choses désagréables.
Sur le public, non?
Non, c'est pas sur le public.
Non, c'est un dialogue très personnel.
J'ai jamais dit du mal du public en son absence.
Daniel Eman.
Lorsque Georges Brassens passait quelque part, que ce soit l'Olympia à Bobino, c'était pour des semaines, sinon des mois, et on s'installait. Voilà, alors sa loge était spartiate. C'était pas le genre à s'installer un petit canapé Napoléon III en velours rouge. Non, il y avait des litres d'eau, puisqu'il buvait énormément d'eau, il transpirait énormément, il perdait beaucoup d'eau, il en buvait beaucoup. Il y avait deux guitares, il n'y avait jamais de fleurs, jamais de fruits, c'était vraiment... sa loge, voilà. Bon, il y allait, son costume de scène qui était vraiment ce qu'il y a de plus simple, costume noir, sa chemise blanche, sa cravate noire, c'est tout. Et il y avait tout un rituel, le clan Brassens, le petit cercle rapproché, se déplaçait et effectivement venait là comme il allait, par ailleurs, lorsque Georges n'était pas en scène, chez lui. Donc, pour ce qui me concerne, Jean Berthelat et moi, quoi qu'il arrive, tous les jours que Dieu faisait et que Georges chantait, nous allions à Bobino, à l'Olympia. Avant le spectacle, si on avait un dîner ou quelque chose d'autre à faire, pendant toute la durée du spectacle, si on n'avait rien d'autre à faire, et après, si on avait été occupé. Donc, il y avait déjà ce petit cercle. Et alors, ce qui était très étonnant, c'était l'après-spectacle, c'est-à-dire les spectateurs qui venaient dans la loge. Ça, j'ai jamais vu ça. Il y en avait énormément. Georges, qui était quand même très fatigué après les spectacles, parce que, curieusement, il n'avait pas l'air d'être un grand sportif de la scène. Et si, il donnait beaucoup de force et d'énergie à son tour. Il était donc crevé et jamais il ne fermait sa porte. Il acceptait que les gens viennent. Et les gens étaient pétrifiés absolument de timidité. Nous, on était dans un coin de la loge très discret, on n'intervenait pas lorsque les gens venaient. Les gens n'osaient pas lui parler. C'était vraiment une atmosphère de sacristie. Les gens défilaient, lui serraient la main, lui disaient « merci, merci ». Il hochait la tête d'un air confus. Il disait « non, non, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Non, non, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Merci ». Et les gens repartaient. C'était absolument jamais de conversation. Les gens étaient pétrifiés d'amour et de timidité, curieusement.
Bobino, 1962.
Alors, on ne peut pas parler à cause de ce petit micro-radio, là.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdre rimés encore, des œils de perdre rimés encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole.
Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Enfant pécor et de Minus, enfant pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Paul Touraine, des Frères Jacques.
Je me souviens d'avoir assisté à des séances de Georges sur scène à Bobineau, des récitals de Brassens à Bobineau, où des salles étaient, il y avait des gens couché dans les allées, il y avait les c'était formidable, les gens se précipitaient, s'entassaient comme ils pouvaient dans cette salle superbe de Bobineau. Les spectacles de Georges, c'était unique.
France Inter, 1971.
Brassens est revenu hier sur la scène de Bobineau après 2 ans d'absence. Moustache et cheveux grisonnants, le gorille, comme on l'appelle, n'a pas changé, toujours en costume bleu avec sa guitare, sa chaise, ses manières parfois un peu gauches face au public, un public enthousiaste avec quelques visages connus, ceux de Guy Béard.
Non, je peux pas la sentir. Non,
c'est fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds. La note est trop grave.
C'est pareil. T'es un peu con, t'écris des mélodies avec des octaves et demi.
Oui, mais cette note grave est chouette.
Eh oui. Et tu la faisais dans cette
musique. Je la fais encore. C'est l'âge qui m'a dit. T'es né en 20, toi? Moi, 21.
Je me fais rare parce que, d'abord, je pense qu'il ne faut pas passer continuellement sur scène. Je ne veux pas être trop... Je ne veux pas trop me prostituer, trop me montrer. Je pense que le public est bien plus content de me retrouver après 2 ans ou 3 d'absence que s'il me voyait tous les jours.
Vous pensez que l'on est obligé de faire des concessions si l'on s'aventure véritablement dans le métier?
Je ne pense pas qu'on soit obligé de faire des concessions. La preuve est faite par certains qu'on n'a pas à en faire. Mais moi, en ce qui me concerne, il me faut du temps pour mettre de l'ordre dans mes idées, pour écrire des chansons. Si je ne passe pas plus souvent en public, c'est pas uniquement par politique, pour me faire rare, c'est parce que je ne suis pas capable d'écrire 12 chansons par an qui me plaisent et qui plaisent à mon public.
Vous avez besoin quand même d'être aimé, comme tout le monde?
Oui, bien sûr, j'ai besoin d'être aimé.
Et vous savez la place que vous occupez, de ce côté-là?
Oh, exactement, non. Je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment beaucoup mes chansons, que mes chansons rendent, sinon heureux, du moins auxquelles mes chansons font passer quelques moments agréables, et ça me suffit.
Françoise Hardy.
Je suis allée voir Brassens plusieurs fois sur scène. Il me semble que la première fois, c'était à l'Olympia. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle surtout de cette chanson, Les Trompettes de la Renommée. Je crois qu'il l'a créée à ce moment-là. Il dégageait de la bonté et de la malice et de la modestie en même temps. Ça veut dire, c'est quelqu'un, quand il apparaissait sur scène, on ne pouvait que l'aimer, étant donné ce qu'il dégageait. Et donc, je l'ai croisé sur un plateau de télévision. Il me semble que c'était un grand échiquier. Et j'avais été surprise de constater qu'il ne connaissait pas ses textes par cœur. Il avait besoin qu'un copain à lui soit là et brandisse ce qu'on appelait à l'époque un nègre, c'est-à-dire un tableau noir avec le texte inscrit dessus.
Georges Brassens. 1962.
Il m'arrive d'écouter mes disques avant de passer en public parce que j'ai une tendance fâcheuse à oublier mes textes.
je commence à avoir quand même fait pas mal de chansons, je finis par... Quand je n'ai pas chanté comme je reste 7-8 mois sans chanter, je suis quand même obligé de me remettre les chansons en mémoire.
Mais sur scène, ça ne vous arrive jamais d'avoir un trou?
Sur scène, ça m'arrive.
Mille et une fois, je ne vous ai jamais vu en train
Parce que vous êtes bien tombé, mais il y en a qui m'ont vu. Ça m'arrive assez souvent, ça.
Le trou, là-bas, au milieu d'une chanson.
Oui, alors là, je m'arrête et j'en prends une autre, comme j'en ai quelques-unes, ça va. Ça gêne en général pas le public. Ça m'arrive quand je suis assez fatigué ou quand quelque chose me trouble dans la salle.
Oui. Quelles sont les chansons qu'on vous redemande toujours? Les premières?
Ben oui, on me demande le gorille, on me demande ce qu'ils appellent la Madeleine, l'histoire du mauvais sujet repenti, l'histoire des gendarmes. On me demande Marinette. On me demande aussi l'Auvergnat, le Parapluie. Puis parfois, on me demande des chansons que j'aime beaucoup et qui ne me semblaient pas avoir tellement de retentissement auprès du public, mais qui en ont un. Qui ne sont pas connus, qu'on n'a jamais entendus dans la rue, mais qui sont connus de ceux qui ont les disques. Pauvre Martin, le Fossoyeur, comme une sœur, des petites chansons que j'aime beaucoup, que je préférerais peut-être aux autres, du reste, et que je ne savais pas goûter, apprécier du public.
À la Villa d'Est, en 1953.
Il ne faut pas choisir entre ces deux micros, il faut choisir. Choisis celui-là maintenant. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Or, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas. Non, pardon. Oui, je croyais que c'était déjà fini. J'allais me coucher. Attends. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Des furies. Quoi? Mais non. Merde. On va en prendre une autre, puis on prendra après. Oh, mais merde, je ne me rappelle plus le truc. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de roster les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, oui, c'est ça, dis merde, il le savait. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. C'était avec leur micro qui monte. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deuil, ces furies, comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas.
Daniel Eman.
Peu d'amis se risquaient à faire la moindre critique. Il faut absolument remettre les choses bien, bien en place. Même de ses amis les plus intimes, il n'attirait pas véritablement la familiarité. C'est-à-dire qu'en tête à tête, oui. Je suis sûre que lorsqu'il était en fin de travail sur un nouveau disque, sur un nouveau tour de chant, sur de nouvelles chansons qui lui demandaient un effort monstrueux et 100 fois et 1000 fois sur le métier, remettait cet ouvrage. Bon, alors quand il arrivait vers la fin, en effet, il convoquait René Fallet pour les textes, Bertola pour la musique, et il se livrait quand même, disons, à un premier regard ou à une première audition. Et je pense, je n'ai jamais assisté, vous pensez bien qu'une bonne femme dans ce genre de circonstances n'était pas admise, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait, sinon des critiques, du moins des réflexions, là, tu vois, ça passe pas très bien, etc. Donc, effectivement, dans le travail, je pense qu'il les acceptait. Après les tours, quelquefois, le clan se réunissait en disant « Cette chanson-là n'est pas vraiment à sa place, dis donc, celle-là qu'on avait entendue entre nous, qui nous avait paru extraordinaire, qui nous faisait un effet bœuf, là, elle est passée totalement à l'as, il faudrait peut-être... » Alors, on hésitait, qui allait se risquer à dire ça au maître? Vas-y toi, non, écoute, moi, la dernière fois, c'est moi qui... alors je vais le dire. Bon, alors on attendait que... Comment il l'a pris? Bien, il l'a pris bien. Et donc, Georges grommelait, il avait l'air de ne pas écouter, et puis le soir suivant, il tenait compte. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait des grandes séances de « dis donc, là, tu te plantes ». Non, non, ce n'était pas ça.
Georges Brassens, 1970.
Vous savez, presque toutes les chansons que j'écris sont dédiées à René Fallet, puisque avant de soumettre une chanson au public, je lui demande toujours son avis. Et quand il n'est pas de... Bien que je n'ai pas de qualité, quand il estime que la chanson n'est pas bien faite, je la supprime. Alors, je n'ai pas beaucoup de qualité, mais j'ai au moins celle de donner de l'importance à mes amis.
Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Quand j'offris pour étrenne une bicyclette à Marinette, la belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chaud au rendez-vous de Marinette, la belle disait « je t'adore » à un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con.
France Inter, Daniel Eman.
Brassens et les journalistes, c'est une histoire ambiguë. Je crois que profondément, il n'aimait pas qu'on l'interroge. Il était quelqu'un de secret, quelqu'un de pudique, extraordinairement pudique, sur tous les plans, sur le plan de sa santé physique, de sa santé morale, qui n'était pas bonne. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était assez sombre, assez mélancolique, qui riait énormément avec ses amis, mais qui souvent n'était pas d'une humeur tellement heureuse. Et il avait toujours le sentiment qu'on allait le soumettre à une question indiscrète. Et donc, je ne l'ai jamais vu heureux de participer à une séance plus ou moins d'interrogation, qu'elle soit télévisée, radiophonique, de presse écrite. Non, il faisait ça parce que ça faisait partie du travail, parce qu'il avait à le faire et que c'était toujours une immense corvée. Alors évidemment, quand on arrivait devant Brassens pour faire son métier, on était déjà saisi d'une infinie timidité. Et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on vient emmerder cet homme qui n'a absolument pas envie de ça, voilà. Et qui était comme une espèce de Saint-Sébastien cloué au poteau attendant les flèches. Alors, on prenait des tas de précautions. On disait, vous savez, on veut pas vous embêter ou on veut pas t'embêter quand on était plus intime. Oui, oui, bon, bah vas-y, pose-les tes questions. J'étais à l'Express à l'époque, il y avait eu un grand sondage sur le bonheur. Et on avait, c'était des questions ouvertes, et on avait donné une série de noms de personnalités, c'était un grand sondage national, qui pour vous symbolise l'homme le plus heureux de France. Mais haut la main, tout à fait en premier, Brassens était sorti. Donc évidemment, sachant que je le connaissais, on disait, ben maintenant il faut que tu fasses une interview de Brassens, l'homme le plus heureux de France. Donc je prends rendez-vous péniblement et j'arrive, et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux encore? Il n'y a pas longtemps qu'on s'est parlé. Et je lui dis, ben écoute, voilà, il y a un grand sondage national et les Français pensent que tu es l'homme le plus heureux du pays. Alors il y a eu un grand silence et puis il a dit, oh les cons. Et ça c'était Georges, voilà. Ah les cons, non, je ne suis pas l'homme le plus heureux de France.
Georges Brassens, 1967.
Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse de la publicité, mais au moment où je dois passer en public, j'ai du mal à finir mes chansons, j'ai du mal à trouver l'air qu'il faut sur tel et tel vers. Alors là, tout ce qu'il y a en plus à faire, vous voyez, les émissions de radio, les photos, tout ça, ça m'embête un petit peu, parce que je ne peux pas sortir de... Je ne suis pas comme ces hommes universels qui peuvent tout faire. Moi, quand je fais des chansons, je les fais. Vous voyez, quand je fais mes paroles, je fais mes paroles, je m'occupe pas de la musique. Alors, quand je suis satisfait de mes paroles, je trouve une musique dessus qui apporte, du moins pour moi, hein, j'espère pour les autres, mais qui apporte pour moi un charme supplémentaire et qui, parfois, me souligne des fautes que je n'avais pas vues. Et puis, parfois, si vous voulez, une espèce de mélodie qui me suggère quelque chose, une nouvelle idée, alors je transforme aussi mon vers. Mais en général, je ne fais pas les deux choses ensemble. Quand je fais la musique, mes vers sont finis. Et je les mets au point, bien sûr, je les recommence, et je recommence aussi les musiques, mais enfin, je ne fais pas les deux choses en même temps. Ce qui fait que quand j'écris mes chansons, et que je dois faire ma rentrée, si vous me parlez de faire des émissions de radio, de sacrifier aussi du temps aux photographes, hein, avec qui je suis très ami d'ailleurs, le père Robert, je suis très copain avec lui, ces gens-là ne me dérangent pas, mais dans cet instant-là, si vous voulez, ça m'embête un petit peu, faire tout ça. Sinon, le reste du temps, quand je ne fais rien, comme aujourd'hui, vraiment, ça ne me dérange pas que Louis soit là.
Daniel Eman.
Et j'arrivais, et là, j'arrivais chez lui, en général en tête-à-tête, et immanquablement, Georges disait, mais qu'est-ce que tu veux encore que je te dise? Mais qu'est-ce que tu sais très bien? Tu ne vas pas me demander si je fais les paroles d'abord ou la musique d'abord? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Vous allez faire le même tour de chant pendant 3 mois?
J'en sais rien, vous m'en demandez trop. Vous savez, je ne pense pas à ça, moi je vis dans l'instant.
Comment avez-vous fait pour passer de cette totale solitude au public devant lequel vous étiez obligé de chanter tous les soirs?
Eh bien, on m'a pris, vous savez, Patachou m'a pris, m'a mis en scène et m'a dit, tu vas chanter. Puis j'ai chanté parce que j'étais gentil.
Est-ce que vous êtes sensible au succès que vous avez, qui est un succès international? Que vous alliez dans les pays un peu partout ou pas, ça
reste... Oh, international, c'est beaucoup dire. Vous savez, en dehors des pays de langue française, mes chansons ne sont pas connues.
Vous aimez bien retourner à 7?
J'aime retourner à 7. Oui.
Vous vous ennuyez du midi? Enfin, vous avez la nostalgie du midi, du climat?
J'ai la nostalgie de la mer, surtout, parce que j'aime assez aller dans l'eau, j'aime assez nager, et j'aime assez être sur un bateau.
Est-ce que vous aimez danser sur ces rythmes?
Mais moi, je ne danse pas.
Ni le tango?
Non, rien du tout, non.
J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'Esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de choux. Or, lassé de servir de tête de massacre, des contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Toute la vérité, messieurs, je vous la livre. Si j'ai quitté les rangs des plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Lisette, à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. comme un bouquin bélier, une bête, une brute. Je suis hanté, le rut, le rut, le rut, le rut. Qu'on me comprenne bien, j'ai l'âme du satyre et son comportement, mais ça ne veut point dire que j'en ai le talent, le génie, loin s'en faut. Pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste rose un bon nombre de femmes, de journalistes qui me pensent en fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique. Et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues sur des tas de bouillons, des paquets d'invendus. Et voilà ce qui fait que quand vos légitimes montrent leurs fesses au peuple ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimés à l'envers, les échos, les petits potins, les faits divers. Et si vous entendez sourdre à travers les plaintes du boudoir de ces dames, des râles et des plaintes, ne dites pas c'est tonton Georges qui expire, ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de recherche. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq, et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredaines, la barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, 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 trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut, le rut.
Georges Brassens, 1968.
Et quand vous êtes sur scène, Georges Brassens, oui. Et que vous employez un mot un peu cru ou une expression oui. anticonformiste, il y a aussitôt une réaction, je dois dire, favorable dans la salle. Et à ce oui. moment-là, vous avez un petit air de complicité.
Bah oui, parce que ça me fait évidemment toujours assez rire de voir le public réagir. Bien sûr, ça me fait rire aussi, c'est assez contagieux. Avant, je ne l'avais pas, ça. Quand le public réagissait, je restais replié sur moi-même, mais cela provenait du fait qu'à mes débuts, à cause de ce qu'on appelait en ce temps-là une sale gueule, il paraît que j'avais une sale gueule à cause de mes cheveux, on a vu pire depuis, bien sûr, mais enfin, à cette époque-là, j'avais pour le commun des mortels une sale gueule, ce qui fait que quand j'entrais en scène, j'entendais aux trois baudets les gens qui faisaient « ouh ». Alors là, évidemment, je me repliais immédiatement, je m'enfermais. Il a fallu que j'aie la preuve de la complicité du public pour me détendre un peu.
Avant de vous quitter, je voudrais vous demander si vous pouvez me citer dans la chanson actuelle un nom, ou deux ou trois, si vous ne voulez pas prendre une position définitive sur un nom, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui vous plaît.
Eh bien, mon Dieu, il y a Jacques Brel,
ouais.
Il y a Léo Ferré. Et puis il y a toujours eu Charles Trenet.
Charles Trenet.
Quand il passait chez Patachou, à Montmartre, eh bien, il m'a chanté de mes toutes premières chansons. Il savait très bien « Maman ne vend pas la maison » et ces choses-là. Puis bien entendu, il connaissait les chansons que j'ai faites après, tout seul. Si bien que j'étais un peu gêné parce que moi, je ne savais pas aussi bien chanter les siennes. Et alors, lui me disait, « Oh, mais c'est très difficile à chanter vos chansons. » Je dis, « Oui, mais alors les vôtres ?» Alors, moi, j'essayais de dire, « Je me suis fait tout petit devant une poupée. » Bon, ben alors, ça, celle-là, encore, ça, je peux la tenir. Mais les autres sont très durs, les dames du temps jadis, tout ça, c'est très difficile à faire.
Daniel Eman.
Les rapports de Georges avec le métier passaient, encore une fois, par des sas d'affectivité particuliers. il aimait certaines personnes, et lorsqu'il aimait quelqu'un, c'était vraiment avec une énorme fidélité, une énorme générosité cachée. Il faisait des choses pour les gens, mais sans qu'on le sache, et même dans le cercle rapproché, quelquefois, on ne le savait pas, et il refusait même on l'interroge sur certains points là-dessus. Mais le métier en tant que tel, c'était pas... Il aimait pas être en public, il aimait pas être dans les fêtes, il aimait pas être dans des dîners, il aimait pas être dans des festivals. Pourquoi se serait-il englué dans toute cette partie extérieure qui ne l'intéressait pas? Donc les gens du métier, oui, de Vos, oui, des gens comme ça, qui étaient de vrais amis, avec qui il aimait parler, avec qui les compagnons enfin, de la chanson, des gens qui étaient ses proches, bon, alors il les fréquentait, il parlait du métier, il adorait parler du métier, il adorait, c'était quand même pas un ermite totalement ascétique, je veux dire, il aimait boire son coup avec ses copains, il aimait dire du mal des gens du métier avec des gens du métier, parce que c'est quand même un des sports les plus délicieux dans toute corporation, et il y excellait. Bon, c'était un homme très joyeux quand il parlait du métier avec ses copains, mais qui n'était pas du tout quelqu'un qu'on voyait aux premières, etc. Non, quand il aimait un artiste, il attendait que l'artiste soit là depuis quelques jours, puis discrètement, tranquillement, il allait le voir et l'applaudir. Il avait un grand naturel avec tout ça, mais c'était pas évidemment du tout une bête montaine.
Raymond Devos.
Je l'ai connu dès qu'il a commencé à exercer le métier. J'allais dire publiquement, comme ça. J'ai connu à Bobineau, je crois que la première fois que j'ai connu Jean, c'est je suis allé le voir à Bobineau. Il y avait Grélot, d'ailleurs, qui a été quand même très important, et qui s'est occupé de lui à ses débuts. Et puis, ensuite, on est allé voir un peu avec Jean, et puis on ne s'est plus quitté, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Non, moi, il m'aimait beaucoup. C'est lui qui a dédicacé mon premier disque. C'était absolument merveilleux, quoi, ce qu'il a dit, des choses. Bon. Voilà. Alors, j'ai connu Georges comme ça, et après, j'avais assisté à toutes ces générales. Il le disait, d'ailleurs. Il le disait, en parlant de lui. Moi, j'assiste à deux générales, celle de Devaux, c'est la mienne.
Olympia, 1962.
Tonton Nestor, vous eûtes tort, je vous le dis tout net. Vous avez mis la zizanie aux noces de Jeannette. Je vous l'avoue, tonton, vous vous comportâtes comme un mufle achevé, rustre fieffé, un homme du commun. Quand la fiancée, les yeux baissés, des larmes pleins les cils, s'apprêtait à dire ouida à l'officier civil. Qu'est-ce qui vous prie, vieux mal appris, d'aller sans retenue faire un pinson cruel en son éminence charnue, se retournant incontinent, tel souffle ta flic-flac, le garçon d'honneur qui, par bonheur, avait une tête à claque. Mais au lieu du oui attendu, elle s'écria « Maman !» Et le maire lui a dit « Non, mon petit, ce n'est pas le moment. » Quand l'épousée, les yeux baissés, d'une voix solennelle, s'apprêtait à dire ouida par devant l'éternel. Voilà mes chefs, que de rechefs vous osâtes porter votre fichu patte crochue sur sa rotondité, se retournant incontinent, tel mouche à le nez d'un enfant de cœur qui par bonheur était enchiffonné. Mais au lieu du oui attendu de sa pauvre voix lasse, au ton suré, désemparé, elle a dit merde hélas, quoi qu'elle usât, qu'elle abusât du droit d'être fessue, en la pinçant, mauvais plaisant, vous nous avez déçus. Aussi ma foi, la prochaine fois qu'on mariera Jeannette, on se passera de vous, tonton, je vous le dis tout net.
Une rencontre historique en 1969.
Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, je crois que c'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble. Jusqu'à maintenant, on vous avait vu deux par deux, mais jamais tous les trois.
Vous êtes la seule à avoir réussi ce tour de force.
Merci.
Moi, je suis conscient. Oui. Moi, personnellement aussi, aujourd'hui, je suis conscient d'être avec deux de mes confrères, d'abord. J'ai dit confrères.
Confrères, oui.
Qui ont un immense talent. Et puis, d'être pour. Je crois que ça commence aujourd'hui, et puis j'ai des idées derrière la tête d'être avec deux copains. Et ça, il y a longtemps que je le veux. Maintenant que nous fassions des chansons avec, depuis 20 ans, tous les trois, et, qu'on ait travaillé beaucoup, qu'on ait, comme on dit chez moi, zugumé sur le métier longtemps, mm-hmm. et que se soit emmerdé longtemps aussi pour faire ce métier, et si aujourd'hui on peut chanter tranquillement dans une salle sans avoir ni les flics, ni les gens qui viennent siffler, ou même s'ils viennent siffler, d'ailleurs ça devient un honneur pour nous, et bien ce n'est que justice, et puis on n'a pas besoin de casser les vides pour le dire, vous comprenez.
Alors, je passe tout de suite à la pop music et par exemple, lâchant le nom aux Beatles. Quel sentiment vous inspire ces gens-là et cette musique-là ?
Ah ben là, je me permets de répondre le premier. Moi, j'aime beaucoup ça sur le plan musical. Pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas l'anglais, alors ça va tout seul.
Moi, je dis comme Georges, j'aime beaucoup ça sur le plan musical et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf d'une chanson. Une chanson qui s'appelle Hey Jude et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire.
Ah oui, moi j'aime bien ça. J'ai également les mêmes envies que Georges pour l'anglais. Je ne sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance.
Oui. Le tout de savoir, c'est comment les gens les aiment, vous voyez.
C'est ça a peut-être de l'importance pour la chanson.
Est-ce qu'ils les aiment profondément ou c'est ce qu'ils les aiment parce que c'est une mode aussi, ça joue aussi. Ça.
C'est joli.
Oui, c'est joli.
C'est joli, c'est jamais indécent, c'est très joli.
Oui.
C'est très joli.
Je crois que politiquement, ces gens-là sont des gens bien aussi.
Oui.
Je crois, hein, d'après
ce que vous en pensez des beatniks ou des hippies, puisque c'est la suite, enfin.
Et c'est l'anarchie moderne.
Ah, moi, j'aime bien ces gens-là.
Oui, c'est l'anarchie moderne.
Merci. De toute façon, vous avez la réponse, on aime beaucoup tous les trois.
Françoise Hardy. J'ai repris une chanson de Brassens à mes débuts, qui était justement une de celles qui me faisait le plus d'effet, parce que je crois que d'ailleurs, quand on regarde un petit peu comme ça toutes les chansons de Brassens, ce sont plus des chansons d'hommes, donc faites pour être chantées par des hommes que par des femmes. Moi, j'avais repris « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et c'est un texte qui a été écrit par Aragon et qu'il a mis en musique. Mais s'il l'a mis en musique, ça veut dire qu'il adhérait à ce texte complètement. Et moi, je trouve que c'est une chanson... enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier la chanson tant pour sa musique que pour son texte.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillé pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir me regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre. Déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret, des frissons. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
France Inter.
Daniel Eman.
Les tournées, c'était formidable. C'était formidable. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup conduire. Toujours des Citroën. Et oui, le côté roulotte, ça marchait très très bien. Alors là, il y avait d'autres rituels qui s'établissaient, dont un, bon, on adorait ça, Pierre Antaignante, qui était là, le fidèle entre les fidèles, le grognard absolu. Et quand même, en tournée, quelquefois, on arrivait dans des endroits un peu chics. Et Pierre Antaignante était toujours vêtu de façon pour le moins modeste. Surtout, il y avait, les tournées étaient souvent en hiver, il avait un par-dessus absolument misérable, une espèce de houppelande mitée, rapiécée. Bon, et un jour, comme ça, entre nous, on dit à Georges, bien sûr, Pierre n'étant pas là, écoute, tu sais, quand on arrive dans les grands hôtels, là, quand même, Pierre, je veux dire, est-ce que tu pourrais pas, je sais pas, soit même lui offrir un autre par-dessus, ou peut-être il est très attaché à celui-là, mais enfin, c'est limite. Et Georges riait, disait « Oh, bah, je suis pas là pour habiller Antaignante, il fait ce qu'il veut ». Et puis on est revenu à la charge, et à soir, au souper, car c'était vraiment après, il fallait toujours trouver l'endroit, parce qu'en province, comme vous savez, c'est très difficile de manger à minuit, mais les artistes ont faim à minuit, donc on trouvait toujours un endroit plutôt rigolo pour souper. Et pendant le souper, le vin d'après-spectacle aidant, tout le monde étant de bonne humeur, Georges prend la parole, tout le monde se tait, le maître parle. « Dis donc, Pierre, j'ai eu des réclamations de la troupe, on ne peut plus supporter ton par-dessus et il faudrait que tu nous dises pourquoi tu as cette loque, cette guenille sur toi. » Et Pierre, absolument déconfit, on se dit « Mon Dieu, c'est cruel, on n'aurait pas dû faire ça. » Puis tout à coup très en colère, puis balbutiant quelque chose. Alors Georges insistant, « Mais quoi, quoi ? Bah dis maintenant, pourquoi tu gardes ?» Et là, c'était devenu extraordinaire. Antaignante a ouvert ce par-dessus. Et il y avait une grande poche intérieure avec une grosse épingle à nourrice. Et c'était là où il mettait la recette de la soirée.
Pierre Antaignante, le secrétaire particulier de Georges Brassens.
Georges était très tolérant. Mais il y a une chose qu'il n'admettait pas, c'était l'indifférence des patrons de salle. Or, il nous arrivait souvent que les patrons de salle, à minuit, il fallait que tout soit déblayé. Alors, ils foutaient le public dehors. Et alors les gens, à ce moment-là, ils sortaient de la salle et ils voulaient voir Brassens, ils ne voulaient pas le toucher, mais le regarder, un petit autographe, tout ça. Et le directeur foutait les gens dehors. Alors Georges, d'abord, il engueulait le directeur et puis il disait « Vous, je vous ai à l'œil et la prochaine fois, on n'y allait plus ». Et puis, oh, ça se passait dehors, alors on était dehors, on signait comme ça, mais quelquefois pendant des heures. Aussi, il y avait énormément de... Après chaque spectacle, il y avait au moins la moitié de la salle qui venait faire signer des autographes.
Gérard Thibault, directeur de salle au Québec.
Plusieurs artistes auparavant qui venaient chez nous me demandaient toujours si je pouvais avoir Brassens. Il ferait un tabac au Québec. Et à un certain moment, M. Canetti m'a dit qu'il acceptait. Et puis, alors, on a fixé des dates. Et puis, c'était en octobre 61. Et on se demandait si ça passerait bien au Québec. Et on s'est rendu compte, dès qu'on l'a annoncé, la demande était très forte. Et à son arrivée, ben, les billets étaient presque tous vendus. Et bien entendu, la critique a été excellente à tout point de vue. Alors, le succès qu'il a eu, c'était extraordinaire.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie, par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie « Mon Dieu » par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
Georges Brassens, 1958.
Georges Brassens, il est évident que vous êtes entré dans la mythologie de l'époque.
Comme une espèce de dieu un peu pouilleux, quoi, un peu sale, avec des cheveux très longs. Oui.
Eh bien, comment réagissez-vous à cette popularité-là?
Eh bien, c'est-à-dire que je me cache le plus possible. Parce que je ne peux plus avoir de vie. C'est à cause de mes moustaches, surtout, je m'empresse de le dire. Si je n'avais pas ces moustaches, je passerais inaperçu. Mais dès qu'on voit un type avec des moustaches, on se dit « c'est Brassens ». Parfois, on s'aperçoit que c'est un agent de police ou que c'est l'épicier du coin, mais souvent, c'est moi. Et alors, on me poursuit. Si je suis avec un ami, on me parle. Et je finis par perdre et l'envie de sortir et l'envie de tenter quoi que ce soit parce que je suis un peu persécuté dans les rues. J'arrive l'autre jour dans un café, j'avais un rendez-vous avec Socrate, vous savez, Canetti de Philips, là. Il n'était pas là. Alors je vais dans un bistrot avec un copain, un bistrot à peu près tranquille où je croyais voir la paix. Et soudain, je me mets à entendre Marinette. Des consommateurs m'avaient reconnu et m'étaient... Il avait fait tourner le disque dans ces appareils-là, comment les appelle-t-on, les busophones, les bastringues, quoi, enfin, mais de thunes dans le bastringue.
Ils font pas les appareils à disque, hein.
Oui. Et dès ce moment-là, je ne savais plus où me mettre. Dès que ceci m'arrive dans un bistrot, je ne sais plus du tout quelle contenance observer, je ne sais plus quoi faire. C'est assez difficile, vous savez. Est-ce que je dois écouter avec ravissement Brassens qui chante? À ce moment-là, j'ai l'air d'un crétin total, alors. Et... est-ce que je dois partir? Alors c'est ce que je fais habituellement, je m'en vais.
Et du point de vue des grosses réactions populaires, ça vous est arrivé, ça, d'être quasiment molesté par des admirateurs à la sortie d'un récital?
Ben, ça m'arrive quand même moins qu'aux chanteurs de charme, toujours à cause de mes longs cheveux, de mes moustaches et de ma réputation, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, j'ai la honte d'être escorté par la police. Et vous savez, dernièrement, à l'Olympia, un jeune ouvrier est venu me voir, il m'a dit, monsieur Brassens, vous êtes devenu snob. Vous avez une cravate, maintenant, et vous avez un pli à votre pantalon. Alors, évidemment, ça, je n'ai pas souvent de pli à mon pantalon, mais j'ai toujours eu quand même au moins un pantalon pour chanter, et un pantalon bleu, et une chemise blanche, enfin blanche. Elle était blanche, vous savez qu'en scène, les choses paraissent très blanches. Bref, j'avais la réputation d'un crasseux. Lui m'a vu de très près, il n'a vu que j'étais pas sale, il a décidé que je m'embourgeoisais, je devenais snob et que je changeais mon fusil d'épaule, je mettais de l'eau dans mon vin, je retournais ma veste. Enfin, il y a 100 000 expressions très pittoresques que le public populaire a inventées pour ça.
Dans cette émission, vous avez entendu dans l'ordre La Traîtresse, La Complainte des filles de joie, Hécatombe, Marinette, Le Bulletin de santé, Tonton Nestor, Il n'y a pas d'amour heureux par Françoise Hardy et La Prière. J'ai rendez-vous avec vous, une émission de la Communauté des radios publiques de langue française de Gérard Vallet, RTBF, Martine Jessop et Monique Giroux, Radio-Canada, Jacques Donzel, Radio Suisse Romande et Fabienne Chauvière, France Inter, avec Janine Marc-Peset et Rebecca de Nantes, une réalisation de Marie-Annick Rimbaud.